Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
On entend parler partout d'un médicament miracle pour perdre du poids, le Ozempic. Il y a même des annonces à la télé qui disent pas vraiment ce que c'est, mais d'en parler à notre médecin.
Ouais.
Est-ce vraiment efficace? Mais surtout, est-ce que c'est suggéré et recommandable? On en jase ce matin avec notre doc ici, Michael Bensoussan. Allô, Michael.
Morning.
C'est quoi d'entrée de jeu, l'Ozempic? L'Ozempic? À la base, ça sert à quoi? Ça s'administre comment?
Alors, le nom de la molécule, parce que l'Ozempic, c'est le nom commercial.
Ouais.
Mais le nom de la molécule, la DCI, qu'on appelle ça la dénomination commune internationale, c'est du sémaglutide. Le sémaglutide, c'est un médicament qui est utilisé seulement et qui est autorisé seulement pour le diabète.
Okay.
C'est un analogue, en fait, d'une hormone naturelle présente dans le système sanguin et le tube digestif qui s'appelle la GLP-1. Et en fait, l'administration de sémaglutide va être utilisée pour traiter le diabète parce que deux choses. Le sémaglutide va augmenter la sécrétion d'insuline,
okay,
et va favoriser la rentrée de glucose dans les cellules. Donc, va obtenir aider à obtenir ce qu'on cherche chez les gens qui ont du diabète, à savoir obtenir l'équilibre de la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Mais également, et ça c'est un effet secondaire mais très positif qu'on recherche dans ce médicament, il va aider à perdre du poids significativement, sans aucune discussion. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc évidemment, les médecins et notamment les endocrinologues, médecins généralistes qui suivent des patients diabétiques, ils adorent ça parce que quand on a un diabète de type 2, d'accord, donc le diabète qui survient en général plus tard dans la vie et qui est lié à du surpoids, le traitement va passer par perdre du poids. Donc si on obtient un médicament là pour le diabète qui va aider à l'équilibre glycémique et faire perdre du poids, en général au bout d'un an, un an et demi, il fait perdre jusqu'à 15% du poids. Donc vous imaginez, si on fait 250 livres, ça l'en fait des livres. C'est vraiment un médicament qui est tellement maintenant prescrit pour les gens qui sont diabétiques et obèses qu'en fait il est devenu pour beaucoup de diabétiques le premier médicament, avant l'insuline, avant les pilules pour... Je veux dire, vraiment un traitement très important.
Sauf que là, moi, en suivant toutes mes personnalités publiques sur Internet, sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a des tendances à prendre Ozempic quand t'es en pleine santé.
C'était pas diabétique,
uniquement
c'est ça.
Pour perdre du poids.
Alors, l'Ozempic, c'est 400 millions de visionnements en 2023 sur TikTok.
C'est d'accord. Ça.
Il y a un Ozempic Challenge et il y a même Elon Musk, donc le evil en chef, Elon Musk qui a perdu là récemment 20 ou 25 kilos et qui a dit que c'était grâce à l'Ozempic. Donc l'Ozempic, c'est devenu le boom, le incroyable, tout le monde en veut, on se l'arrache. Alors...
Mais c'est un miracle.
Ça veut dire que il y a beaucoup de médecins qui vont prescrire de l'Ozempic en dehors de situation du diabète. En fait, je vais vous dire les chiffres
ici,
au Québec.
Ici, on n'a plus le droit. Au Québec, on n'a pas le droit.
Je vais vous dire au Québec. Au Québec, il y avait 74 personnes qui étaient sous Ozempic en 2019. Ça, c'est les chiffres de la RAMQ. En 2022, c'était 35 000 personnes. Vous voyez le genre d'augmentation. Et sur les 35 000 personnes chez qui, au Québec, est prescrit de l'Ozempic, il y en a moins de la moitié qui sont diabétiques. Donc, on sort complètement des indications. Et qu'est-ce qui se passe dans certains pays comme l'Italie, l'Australie ou les États-Unis, eh ben voilà, on est en pénurie d'Ozempic et les patients qui sont diabétiques et qui ont vraiment besoin d'Ozempic, on en trouve plus
si
pour
c'est
eux
miracle,
autres.
J'en veux, Michael.
Alors
c'est
ça n'est
ça,
pas
là.
Miracle. Il faut quand même entendre ça. Quand on n'est pas diabétique, d'abord on doit le payer. C'est 100 pièces par semaine, c'est plus que 400 par mois. De deux, c'est un médicament injectable, d'accord. C'est des petits stylos, on doit injecter la dose et on doit se les injecter soi-même. Trois, il y a full d'effets secondaires. Alors attention, il y a full d'effets secondaires. Ça donne... Parce qu'en fait, c'est un coupe-faim, principalement. Quand on est sous Ozempic, le but de tout ça, c'est qu'on n'a plus faim. Mais l'effet secondaire qui est vraiment très fréquent, c'est que ça donne des troubles digestifs. Notamment, plus de 50% des gens, c'est majeur, disent avoir de la nausée.
Ben, mais Simon, sur la messagerie, il dit, moi, je suis diabétique et ça donne des maux de cœur intenses.
Voilà, donc ça donne vraiment de la nausée. Et surtout, on commence vraiment à avoir du recul sous ce médicament et et apparaît au bout de quelques années une donnée scientifique que les médecins témoignent de plus en plus avec leurs patients, c'est que quand on est sous Ozempic, oui, on perd du poids, mais malheureusement, bien souvent, si on n'a pas solidement changé ses habitudes de vie et alimentaire, quand on arrête l'Ozempic, on reprend le poids et plus. Ça veut dire que si on commence l'Ozempic, et qui est donc coûteux avec des effets secondaires, on va probablement rester sous Ozempic à vie. Donc non, ça n'est pas encore le médicament miracle, c'est juste un médicament qui fonctionne, c'est un trend, c'est une mode, on en prescrit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que de raison, et ça manque maintenant aux gens chez qui ils ont une vraie indication, c'est-à-dire les patients diabétiques et qui ont un BMI supérieur à 30, c'est anormal, et c'est un effet secondaire des réseaux sociaux, ça devrait pas être comme
donc
ça.
Donc c'est inquiétant ce mouvement-là.
Ben, plutôt.
Mais il y a plein de gens qui témoignent, excuse-moi, il y a Martin qui dit, mon médecin me l'a prescrit en 2018, sans diabète, j'ai perdu 240 livres quand même.
Mais 240 livres, ça veut dire qu'il était solide, Martin. Mais
on dirait qu'on cherche un. On choisit un moindre mal.
Mais ça s'en vient. En fait, c'est le début des médicaments de nouvelle génération. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on utilise des médicaments pour perdre du poids. Il y a 20 ans, 30 ans, on utilisait des amphétamines qui étaient déjà des coupe-faim et qui avaient full d'effets secondaires. Là, il y a les médicaments du TDAH, Concerta, Adderall, etc. sont aussi des coupe-faim et sont détournés notamment ces effets-là et pour perdre du poids. Maintenant, ça, c'est des médicaments qui sont spécifiquement dédiés à l'équilibre de la glycémie et à perdre du poids, mais très vraisemblablement, et c'est déjà autorisé aux États-Unis, on va avoir une deuxième génération de ces médicaments-là qui sont disponibles par pilule, qui vont être probablement moins chers, mais il faudrait, un, qu'il y ait moins d'effets secondaires, et deux, que ce soit quand même mieux toléré. Mais surtout, et ça c'est un message, je m'excuse de revenir toujours avec ça, mais prendre ce genre de médicaments-là sans adapter ses habitudes alimentaires, c'est-à-dire sans changer, si on mange trop de gras, trop de sucre, on fait pas d'exercice, on s'hydrate pas assez, ça ne sert à rien, et dès qu'on arrêtera le médicament, on va reprendre tout le poids et plus.
C'est très très clair, Michael, merci infiniment.
Donc on veut une prescription.
Ouais.
C'est ça qu'on a compris, tout le monde.
On arrive là. Si t'en as vraiment besoin, pour vrai, ça peut t'aider, effectivement, dans la vie. Puis on est sur le chemin de quelque chose de plus saillant. Le doc a vos réponses, des réponses à vos questions. Continuez de nous les envoyer sur le 96.9.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le podcast Debout les comiques.
On a des questions pour le doc, on a vos questions pour le doc.
Tout à fait. Gino Messier qui s'interroge au sujet de la COVID longue. Il dit, on me dit que je l'ai eu. Je me sens toujours essoufflé. Une toux qui continue continuellement. Donc, combien de temps je peux penser redevenir en forme?
Alors, on dit COVID longue quand les symptômes durent plus que 3 mois maintenant. Il y a consensus là-dessus. C'était 1 mois, 3 mois. Bon, là maintenant, c'est plus que 3 mois. Donc, si ça fait pas 3 mois, Gino, déjà, on respire
pas dans la COVID
longue. Bon,
la COVID
tout semble, enfin, on respire. Et ça devrait probablement se tasser. Les symptômes de COVID long qui sont les plus fréquents sont en 1, les troubles du sommeil. Troubles du sommeil. Moi par exemple, la COVID a brisé mon sommeil, ça fait plus qu'un an.
Bon, et t'es encore là-dedans.
Je suis encore là-dedans. 2, ça va être la fatigue générale. Et 3, c'est la toux. Voilà les symptômes de COVID longue les plus fréquentes. Gino, si t'as pas consulté pour ça, faut le faire. Parce qu'il va falloir documenter ça. Va falloir faire des radios, probablement des épreuves fonctionnelles respiratoires. Ça va être bientôt reconnu comme une maladie professionnelle, maladie longue. Mm-hmm. Tu pourrais avoir des assurances, mais je veux dire, ça nécessite une consultation et un suivi. Je rappelle qu'il y a une clinique spécialisée à l'Institut de recherche de Montréal, l'IRCM, qui est à côté de l'Hôtel Dieu, là, vers Saint-Urbain, spécialisé sur la COVID longue. Vous avez qu'à vous connecter sur le site et vous pourrez obtenir un rendez-vous. Okay. Il y a des médecins spécialisés dans ça à Montréal.
Okay. Il y a Dave de Terrebonne qui dit « Mon oncle de 70 ans a eu une diverticulose à Noël. Son hémorragie a été colmatée, mais on a un voyage dans le sud en avril. Est-ce que vous déconseillez le voyage? »
Diverticulose, qu'est-ce que c'est?
La diverticulose, c'est quand on a des diverticules dans le côlon, donc des sortes de petites faiblesses, des petites niches là, comme une chambre à air un peu fatiguée. Ça arrive, c'est très 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 fréquent, et c'est pas une maladie d'avoir une diverticulose. C'est vraiment extraordinairement fréquent. La plupart des gens de plus de 70 ans ont un peu de diverticule. Maintenant, ça devient une maladie quand il y a des complications de la diverticulose. Okay. Les deux complications les plus fréquentes sont, un, quand ça s'infecte, ça s'appelle une diverticulite, et comme c'est souvent dans le sigmoïde, on appelle ça une sigmoïdite. Donc, ça se traite avec des antibiotiques, quoique même ça, c'est débattu, mais enfin, autre sujet. Et quand ça fait une hémorragie. Maintenant que l'hémorragie est résolue, il est guéri, vous pouvez tout à fait aller dans le sud, le risque de récidive est très faible. Mais il va garder ses diverticules toute sa vie. C'est pas parce qu'il a ses diverticules que ça va ressaigner.
Okay, j'en parlerai aussi à l'assureur.
Surtout pas. Pardon, je n'ai rien dit.
On a rien dit.
Y a-t-il des assureurs qui sponsorisent C'est quoi? Je vais de nouveau voir des endroits.
Tout va bien.
Des courriels.
Docteur, on a reçu un message de la part de quelqu'un qui n'a pas mentionné son prénom. D'ailleurs, si vous nous écrivez au 96.9, écrivez-nous votre nom. La personne dit, comment aider à soulager les douleurs menstruelles autres que les classiques que l'on connaît comme l'ibuprofène, oui, la chaleur sur le ventre et sur le dos et, oui, l'imidol?
Alors d'abord, l'ibuprofène n'est pas forcément l'anti-inflammatoire le plus efficace pour traiter les douleurs pelviennes quand on a des menstruations. On peut essayer le naproxène. Ça marche des fois mieux.
Ouais. Bon,
de une. C'est le fort. Naproxène, et si ça fait mal à l'estomac, il existe du naproxène qui est combiné avec du pantoprazole pour protéger l'estomac. Ça s'appelle du Vimovo. D'accord? De une. De deux, moi je conseille le cocktail suivant qui marche très bien sur les douleurs abdominales, notamment les douleurs menstruelles. C'est un cocktail de Tylenol.
Oui.
Oui. Et d'un antispasmodique de l'intestin qui s'appelle le bintilol. La molécule, c'est la dicyclomine. Un toutes les, c'est toutes les 8 heures et en alternance. Donc un toutes les 4 heures. Donc pendant un jour, deux jours, trois jours, selon les besoins. Tylenol, bintilol, Tylenol, bintilol. Ça marche relativement bien. Ne pas négliger l'apport d'une bouillotte, donc du chaud, à mettre sur le ventre. Il y a des petites bouillottes.
Ça reste efficace.
Ouais, on peut se déplacer avec, etc. Et enfin, si c'est des douleurs absolument insupportables et qui résistent aux médicaments, faut quand même en parler à son gynécologue. Parce que, ou ça peut nécessiter un traitement hormonal d'orientation et d'équilibration des hormones, mais ça peut aussi nécessiter des examens complémentaires pour être certain qu'il n'y a pas une endométriose. Ouais, autre sujet.
Sinon, Karine nous demande, mon conjoint a été diagnostiqué maladie de Crohn, il refuse la médication par injection, il l'a choisi par voie orale, est-ce que c'est aussi efficace?
Ben, c'est compliqué de répondre à ça parce que, en fait, c'est une histoire de stratégie. Il existe dans la maladie de Crohn, c'est une maladie chronique, inflammatoire, donc il va falloir traiter toute la vie. Donc, évidemment, votre conjoint va nécessiter des traitements, sauf si la science fait des découvertes dans les prochaines années toute sa vie, et en fait, c'est une question de stratégie. Il y a des traitements oraux, il y a des traitements injectables. Bon, si les traitements oraux ne marchent pas, peut-être qu'il y a d'autres traitements oraux qui vont fonctionner, ou il va falloir prendre des traitements injectables. Mais disons qu'en général, de ce que je connais de la stratégie de la maladie de Crohn, puis j'en connais quand même un bout, c'est vrai que si on a essayé un ou deux traitements oraux et que ça ne fonctionne pas, on va passer aux nouveaux médicaments, dits les biothérapies, les anti-TNF, les blablabla mumab de ce monde, c'est des médicaments qui sont efficaces dans 80 à 90% des cas. Donc faut pas en avoir peur. Nous, c'est des médicaments que je manipule beaucoup depuis des années. Les effets secondaires sont quand même très rares. Les effets secondaires, c'est surtout des réactivations d'anciennes infections. Et en fait, avant de prescrire ces médicaments, on va faire pas mal d'examens pour être certain qu'il n'y a pas une vieille infection qui traînerait et qui serait réactivée. Donc franchement, je dirais même, et je me lance, il y a moins d'effets secondaires avec les médicaments injectables qu'avec les médicaments par la bouche qu'on utilise dans la maladie de Crohn. Donc franchement, si on est passé à travers les pilules, il n'y a aucune raison qu'on ne passe pas à travers les injections. Et si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter.
Merci docteur, vous êtes super crédible. On dirait que vous êtes vraiment
Vous êtes docteur.
C'est mon personnage préféré.
Est-ce que tu as un saviez-vous que, Mickaël, pour nous ce matin?
Oui, j'ai un saviez-vous que. En fait, saviez-vous que, on le disait tantôt, dans la plupart des civilisations et depuis des millénaires, on utilise des médicaments pour maigrir. Et les médicaments qui étaient utilisés, notamment en Amérique du Sud il y a très longtemps, c'était des médicaments qui faisaient vomir. Et il y a une plante qui est émétisante, c'est-à-dire qui fait vomir, qui s'appelle l'ipeca. L'ipecacuanha, c'est son nom complet. Et en fait, ça existait en médicaments, c'est-à-dire que quand on arrivait à l'hôpital avec une intoxication alimentaire, jusqu'à il y a quelques années, on donnait du sirop d'ipeca pour faire vomir les gens. C'était horrible comme traitement. Et d'ailleurs, maintenant, on ne le fait plus du tout. Il n'y a plus aucune indication à faire vomir les gens en cas d'intoxication alimentaire quand on arrive à l'hôpital. Mais ça existe encore sur Internet. C'était sous le manteau ou dans certains magasins. Okay. Par contre, sachez qu'au Québec, le sirop d'ipeca pour faire vomir était disponible disponible et remboursé jusqu'en 2006. Ça fait une quinzaine d'années que ça existe plus, que c'est plus un médicament remboursé. Mais enfin, j'ai l'impression en disant ça que je recommande aux gens d'avoir des troubles alimentaires, mais pas du tout. C'était juste un fait insolite, faites pas ça.
Ouais, exactement. Et sinon, IPK, comment t'appelais ça?
Ipecacuana.
Ipecacuana, ça pourrait être le titre de la chanson d'été de l'été prochain. Ipecacuana au 96.9. Merci beaucoup, Michael. Ben, toujours intéressant.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le podcast Debout les comiques.
Je te parle d'un quartier à Londres, le quartier Soho, que Valérie a sûrement déjà visité.
Un quartier huppé de Londres.
Oui, effectivement.
un endroit aussi très festif, où il y a plusieurs bars, plusieurs pubs, plusieurs endroits où on peut faire la fête, des terrasses et tout ça. Mais ils ont un problème aussi qui vient avec ça, c'est qu'il y a des gens qui vont se soulager dans les ruelles, dans les endroits, sur n'importe quel mur, parce que des fois, les toilettes sont pleines et ils font comme bar, ben, allons aller pisser dehors, ça va être moins compliqué parce que tu sais comment on est, nous, les hommes. Et là, ben, ils ont un problème. Ils ont décidé de trouver une solution. C'est 3000 résidents qui ont repeinturé les murs de briques, les murs autour, avec une peinture spéciale. Une peinture qui permet d'être anti-pipi. C'est-à-dire que ça va éclabousser quand tu vas faire pipi sur cette peinture-là. C'est vraiment... C'est comme hydrofuge, là.
C'est comme une arme offensive.
Ouais, ben c'est ça. C'est que tu reçois un peu la monnaie de ta pièce. Alors, tu urines, puis au lieu de s'imbiber, ça splash. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une démonstration avec une bouteille d'eau. Là, ils lancent la bouteille d'eau, puis là, l'eau, elle perle, puis elle revole. Là, tu sais, ça reste pas là. Fait que
il y en a qui vont...
Ben oui, ben, ils espèrent que c'est une bonne idée, parce que ça a coûté quand même assez cher faire ça. Et c'est...
On pourrait faire le tour de la balle avec ça.
Ben oui, ça serait formidable.
Pour monter des gens que
moi, j'ai deux garçons, alors ça serait une très bonne idée à la maison.
Est-ce que ça a un effet positif?
Ben là, ils viennent de le faire. Okay. Donc, ils vont évaluer avec le temps si ça a de l'allure, mais ça coûte quand même 1,15 million d'euros juste nettoyer les murs de cette urine-là d'habitude. Là, parce que les résidents, ils font comme...
Année.
Ben c'est ça, les résidents font, hey, ça n'a pas d'allure, là, ça pue, ça nuit au quartier.
Donc, autrement dit, cet investissement-là va rapidement devenir... va s'annuler.
C'est ça le but. On va voir si ça va dissuader les gens, parce qu'il y a déjà des constats d'infraction que tu peux recevoir si jamais tu urines en public, mais même ça faisait pas la job. Fait que là, est-ce que de fait d'aller uriner puis que ça te revole dessus, ça va être quelque chose où les gens vont juste se prendre un jet diagonal puis ils vont faire comme
c'est ça.
Je vous ai eu. Moi personnellement, j'aurais mis des clôtures électriques. Je pense que la clôture électrique est la chose la plus dissuasive que tu peux pas avoir au niveau
de le mur, le bas du
juste
mur.
Un petit
tu mets ta petite main là en même temps que tu...
J'ai fait ça une fois, pas uriner, mais juste m'accoter sur une clôture électrique sans savoir.
Ça snap, hein?
Ça saisit.
Le podcast Debout les comiques.
Valérie, tu vas nous parler de quelque chose d'absolument mystérieux.
Je capote là-dessus.
Vraiment.
Je suis tombée sur un article du Rolling Stone et depuis, je suis obnubilée par ce qu'on appelle la chanson la plus mystérieuse d'Internet. C'est une chanson qui existe sur Internet et qui est virale depuis les dernières années, depuis 2019 plus précisément. Il y a des blogs et des blogs et des blogs avec des utilisateurs qui cherchent c'est quoi l'origine de cette chanson-là. Personne le sait. Il y a même personne qui s'entend sur le titre. Le titre, OK, c'est... Il y a certaines personnes qui pensent que c'est Like the Wind. L'autre qui pense que c'est Blind the Wind. Check it in, check it out.
Okay.
Take it in, take it out.
Ben voyons,
ça, mais là,
ben voyons,
je vous jure,
ça, c'est large.
On sait pas.
Mais, okay? Mais pourquoi qu'on ne demande pas au chanteur ou au compositeur?
Parce que personne ne sait d'où ça vient.
Quoi?
Là, j'ai un extrait de la chanson et je vous avertis, la qualité audio n'est pas spectaculaire. Mm-hmm. Et c'est la raison qui fait une des raisons qui fait en sorte que c'est aussi mystérieux, parce qu'on n'arrive pas à savoir qui chante. Puis vous allez entendre, il y a comme un accent sur la chanson.
Okay.
On pense que c'est allemand ou encore autrichien. On écoute.
C'est bon. Moi, ça sonne même hébreu ou suédois, j'ai aucune idée.
Mais ça fait très Dépêche Mode ou New World. Ouais. Voilà.
Un peu New Wave.
New Wave. Ce qu'on pense que les utilisateurs là, qui cherchent l'origine de cette chanson-là pensent que ça a été créé dans les années 80 parce que c'est très New Wave, ouais. C'est très Dépêche Mode, c'est très New Order, OK? Par contre, on ne sait pas plus que entre 82 et 84 à peu près. Et la raison pour laquelle c'est aussi mystérieux, ce serait un homme qui s'appelle Darius X qui, à l'époque, écoute une émission de radio sur une radio publique allemande qui s'appelle NDR. Okay. Et lui enregistre cette chanson-là, appelle ça « Cassette numéro 4 ». Là-dessus, il y a des tonnes de The Cure, entre autres. Ouais. Et quand il va travailler cette chanson-là, il va avoir coupé, bien évidemment, la voix de l'animateur radio parce qu'il veut pas l'avoir sur sa cassette. Okay. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de savoir c'est qui parlait. On n'est pas capable de savoir c'est où ce moment.
Aucun référencement, là.
Il n'y a aucun enregistrement dit propre de la chanson. Fait que pas le nom de l'émission, pas la date de l'émission, rien, pantoute. Darius S, il va créer son mixtape en 85, une playlist qui s'appelle Unknown Pleasures, plaisir inconnu, d'après un album de Joy Division. Et il va, en 2004, numériser ces mixtapes-là. Et ça va se rendre sur Internet à un moment donné. Et depuis ce temps, tout le monde se demande c'est quoi.
Mais mon Dieu, mais c'est-tu un auteur qui est décédé puis qui n'aurait jamais su que ça
change? On écoute encore un petit extrait, j'ai
Ça sonne correct, là, presque commercial.
C'est passionnant comme enquête.
Il y a même plein de théories sur le thème qui existent. C'est-à-dire, est-ce que pour certaines personnes, ça parle de la guerre froide. Pour d'autres, ça parle du communisme en Allemagne de l'Est ou encore du mur de Berlin. Pour certaines personnes, le chanteur parle d'une séparation en général. Bref, on n'est pas capable de savoir ça vient d'où, ça a été enregistré quand, puis c'est qui a fait ça.
Voyons donc.
Même la personne qui chante qui l'a enregistré est jamais venue de l'avant pour dire que c'était elle.
Ça me fait beaucoup penser à Sugar Man, le documentaire sur Netflix, du chanteur qui ne savait pas qu'il était connu ailleurs, qui était devenu une célébrité. On dirait qu'il y a, comme tu disais, une enquête à faire avec ça, documentaire de trouver qui est.
Si ça vous intéresse, là, vous irez voir, il y a des sites canadiens qui sont dédiés uniquement à tenter de retrouver c'est quoi. Vous faites juste googler chanson la plus mystérieuse d'Internet ou encore en anglais, vous allez avoir encore plus de références. Là. The most mysterious song on the Internet.
C'est vraiment quelque chose de particulier.
C'est fou,
Red. Il y a Mark O'Brien, il disait, c'est-tu Man at Work? C'est vrai que le time de voix peut
canadien,
sembler.
Canadien, Man at Work.
Man at Work, c'est canadien, effectivement. Non, je pense pas que c'est Man at Work quand même.
Le podcast Debout les comiques.
5h56, on va se jaser de l'ouverture des commerces, de fermeture des commerces le dimanche. On s'en jasait pas mal hors d'onde. Ça fait réagir quand même.
Vraiment. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est un article, vraiment très bon article, de la part de Magali Masson sur le site de Radio-Canada. Et elle parle de la fermeture des commerces généralisés. Donc, vraiment tous les commerces qui pourraient potentiellement fermer les dimanches pour aider les commerçants à pallier pour le manque de main-d'œuvre. Parce que, comme je le disais un peu plus tôt, si ton staff travaille 5 jours semaine, 6 jours semaine, parce que t'as pas d'autres employés pour pouvoir les remplacer, si tu fermes le dimanche, ça leur accorde au moins obligatoirement cette journée-là de congé, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui demandent ça ou en tout cas qui peuvent estimer que ce serait une bonne solution. La fermeture des commerces, par contre, ça pourrait faire en sorte, dans l'autre côté de son article, que le dimanche, les familles qui ont que la fin de semaine de congé, on leur enlève une journée complète pour faire leurs courses.
C'est donc, ce que nous dit exactement sur la messagerie texte, là, la messagerie.
Karine.
Ouais, c'est ça.
Je suis une maman de jumeaux de 3 ans.
C'est ça.
C'est quelque chose quand
parce
même.
Que,
elle travaille toute la semaine en plus.
Épicerie, pharmacie, tout ce qui a rapport avec les courses, t'enlèves une des deux journées, ça t'oblige à tout faire le samedi. Donc, par le fait même, à vivre des commerces saturés de monde, tu sais. Après ça, dans l'article, on explique que le dimanche, il y a des gens qui vont quand même faire des courses et ça va se faire en ligne. Donc, c'est négatif pour tous les commerces de proximité dans nos quartiers parce qu'on va acheter par Internet.
Vont se racheter. OK, je peux comprendre. Mais quand j'achète des affaires par Internet, mettons, c'est pas des choses que j'irai acheter le dimanche dans le commerce qui est ouvert. Tu comprends ce que je veux dire?
Certaines personnes, oui, tu sais.
Peut-être, mais je suis pas sûr que c'est la majorité tant que ça. Ah, ouais,
tu comprends ce que tu veux dire? Tu vois, un article ce serait la concurrence dans le domaine qui est plutôt féroce. Mm-hmm. Donc, ça fait en sorte que si je peux dire à mes employés, moi, je t'assure que tu vas être off, c'est bon. Mais en même temps, s'il y a un autre commerce autour qui lui dit « moi, je fermerai pas les dimanches parce que c'est pas une loi ou quoi que ce soit », mais la concurrence va jouer négativement pour le commerce.
Tout à fait. C'est difficile pour le commerce au détail qui a pignon sur rue actuellement. On le voit,
vraiment.
La compétition avec le magasinage sur Internet, c'est très solide. Moi, ça, c'est un argument qui me fait dire « voyons, même si on ferme, on n'atteindra peut-être pas les objectifs qu'on veut atteindre en fermant. » J'ai l'impression que, tu sais, je veux dire, on n'est pas plus avancé. Si oui, il y a pénurie de main-d'œuvre, mais on n'est pas plus avancé si un commerce doit fermer parce que les gens achètent ailleurs.
Ah ouais. Pour plusieurs commerçants aussi, c'est un recul par rapport à la loi. Parce que c'est depuis 1992 qu'ils ont obtenu le droit d'ouvrir le dimanche. Fait que là, tu sais, chaque loi qui est instaurée, pour eux autres, ça serait vraiment de reculer, tu sais.
C'est-tu le dimanche après ça? Est-ce que si c'était le lundi, mettons,
quelqu'un
que les commerces sont fermés le lundi, est-ce que ça changerait la donne? Parce que moi, j'ai un ami restaurateur, c'est ça qu'il fait, hein, vraiment, vraiment. Puis lundi, mardi, mercredi, même, c'est oublie ça.
Tout à fait.
Je travaille moins, j'ai moins d'employés, j'ai moins de charges, mais je gagne mieux ma vie, puis j'ai une meilleure qualité de vie depuis que je fais ça aussi.
Mais c'est là que c'est complexe, parce qu'il y a des gens qui vont nous répondre, ben là, je serai pas sur le même horaire que tout le monde. Puis l'idée de garder le dimanche, c'est de pouvoir suivre la majorité, tu sais, en famille, d'être tous en congé.
Si on fermait les commerces le dimanche, tu serais content ou pas? Comment ça changerait ta vie?
Le podcast Debout les comiques.
On parle de fermer les commerces le dimanche. C'est revenu dans l'actualité. Il y en a qui se demandent, est-ce que ce serait pas une façon là de régler une partie des problèmes du manque de main-d'œuvre? Peut-être que ça ferait cet effet.
Ben, Sylvie, elle est pas d'accord. Elle dit, je comprends le point de vue de fermer les dimanches, mais certains jeunes, c'est le seul moment qu'ils peuvent travailler pour payer leurs études, leur logement. Alors, la semaine, ils sont en cours. Alors, c'est ça la possibilité.
Ben, je vais faire l'avocat du diable là-dessus, parce que moi, j'ai des grands-neveux, des grandes-nièces, puis on a eu un commerce, à un moment donné, de détail, ma blonde puis moi. Puis pour vrai, là, les jeunes, c'est pas vrai qu'ils travaillent deux jours la fin de semaine à temps plein, puis qu'ils en profitent là pour travailler. Ils vont répandre leurs heures à travers la semaine quand même, malgré leurs études, mais la fin de semaine, moi, c'était difficile au bout, puis c'est il y a 10 ans, là. Puis je ne vis pas cette expérience-là maintenant, mais c'est pour ça que je me rabats sur mes neveux, mes nièces. C'est la même chose pour eux autres, là. Ils se gardent ben une des deux journées qu'ils travaillent pas, tu sais. Fait que c'est pas vrai que les jeunes en profitent là. Je te dis pas qu'il y en a pas, là, mais je pense que c'est plus de l'exception que la réalité. C'est pas comme avant.
Il y a Éric Turcotte qui réussit à me convaincre, qui dit « Ferme un Costco le dimanche, ça va être la folie le samedi. »
Non.
Et c'est vrai que ça va tout se rabattre le samedi. Ça va être... Écoute, déjà, c'est intense.
Je pense pas que... Je pense que ça va se spreader. On va prendre une autre habitude. Moi, j'ai l'impression. Ah oui, absolument.
C'est pas le feeling, moi. J'ai l'impression que ça va être plein des magasins partout le samedi.
Mais peut-être. On va aller au téléphone. Il y a Pierre qui est là pour réagir. Salut, Pierre.
Bon matin.
Salut, Pierre. Toi, tu reçois ça comment? Mettons que les commerces sont fermés le dimanche. Ça change quoi dans ta vie?
Ben moi, j'avais un restaurant avant, le Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice, là.
Oui.
Puis si tu me fermes le dimanche, là, ben là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, on va créer un engouement. Tout le monde va y aller le samedi. Moi, mes deux meilleures journées, c'est ça, le samedi-dimanche. Puis là, tu vas dire au monde, tu fermes le dimanche. Mais qui va fermer le dimanche? Le IGA? OK, le IGA ferme. Mais lui, la pharmacie qui vend du lait, du pain, tout ça, pourquoi que lui, il ferme pas aussi?
Ouais. Ah, ça va créer
des... travaille du vendredi.
Ça va créer des disparités, donc des injustices, selon toi, Pierre.
Oui, oui. Ça, dans le reportage... Moi, que Valérie, dont elle nous a parlé, s'est mentionné aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit généralisé. Il faut que tout le monde le fasse. Sinon, ben là,
autrement, c'est pas viable.
Il y a quelque chose qui marche pas, là, tu sais.
On pourra pas faire ça. Parce que là, on va créer une chicane indirectement. Puis on veut pas une chicane. Mais sérieusement, on va vraiment créer quelque chose que on va. Moi, déjà, j'ai de la misère à avoir du monde. Fait que là, je vais avoir tout mon monde le samedi au restaurant. Puis là, dimanche, j'ai plus personne, à un moment donné.
Ben oui.
T'sais, c'est. Moi, je dis que ça devrait être libre à tous et chacun. On fait le choix, comme toi, t'as un ami qui a un restaurant. Lui, il ferme les dimanches, lundi, mardi. Moi aussi, j'ai un ami qui vend des sushis. Il ferme le dimanche, lundi, puis il dit, c'est pour ma qualité de vie.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais Pierre, on comprend ton point, puis écoute, c'est pas une loi qui s'en vient, là, non plus. C'est une hypothèse qui a été émise en fin de semaine. Merci, Pierre, de ton témoignage, pardon.
À vrai dire, le but, c'est de commencer à en discuter, là. C'est ça, le résumé de l'article, si on veut. Il y a aussi des conclusions comme les commerçants qui doivent plancher sur des solutions solutions qui sont adaptées à leurs propres problèmes par rapport à l'automatisation. Donc, est-ce qu'on peut demander à l'intelligence artificielle, mm-hmm. à l'ordinateur, de faire certaines tâches en particulier, ou encore des travailleurs expérimentés qui veulent rester sur le marché du travail, mais qui sont retraités, est-ce qu'il y aurait des avantages fiscaux qu'on pourrait leur donner? Ça aussi pourrait être une piste de solution pour diminuer la pénurie de main-d'œuvre.
Mais pendant la pandémie, il y en a eu des fermetures le dimanche. Ouais. Je serais curieux d'avoir les chiffres qu'on a eus là-dessus. Est-ce que c'est devenu, comme tu dis, Billy, ouais. invivable le samedi au Costco? Comment ça s'est passé quand on l'a fait dans le commerce puis dans vos commerces? Je serais curieux d'entendre ça. On s'en rejasera certainement parce que c'est pas fini, cette hypothèse-là. Dans un instant, c'est le petit monde de Billy Tellier. Qu'est-ce que t'as dans ton petit monde ce matin, mon cher Billy?
Ben, c'était dimanche hier, fait que j'ai rien fait, Martin.
Non.
sinon, j'ai le mijoteur.
Ah, OK.
C'est correct. T'as fait de la bouffe, c'est ça qu'on fait le dimanche.
Exactement.
En famille.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Debout les comiques.
C'est parce que c'est debout les caves.
Oh oui, on accueille pour l'occasion Nadia Robitaille.
Okay. Hey, bonne Nadia.
Hein? Ah oui, elle nous
fidèle.
En envoie souvent. Vraiment. Alors, ce matin, elle nous raconte l'histoire de ce couple qui se couche le soir. Le mari commence à caresser le bras de sa femme, sa cuisse. Oh. Tout de suite, elle l'arrête. Elle lui dit, écoute chérie, je suis désolée, j'ai un rendez-vous chez le gynécologue demain, je veux rester fraîche. Le mari est déçu, il se retourne. Quelques minutes plus tard, il sollicite à nouveau sa femme. Okay, chérie, écoute, je voudrais savoir, est-ce que tu as aussi un rendez-vous chez le dentiste demain?
OK, mais il y avait une idée fixe, on va se le dire.
Non, mais en même temps, on peut dénoter sa perspicacité.
Ouais,
c'est intéressant. Moi, je raconte une blague de Denis du Lac Supérieur. Salut, qui est vraiment joué dans... Il est venu jouer dans mes deux tables de choix. Là. Une petite joke de blonde.
Ah, ben oui.
Mais aussi une joke de poisson rouge.
Oh, oui. Oh.
Alors, pourquoi est-ce qu'une blonde n'arrive jamais à garder ses poissons rouges vivants?
Je sais pas.
Parce qu'à partir de 6 mois, elle essaie de leur apprendre à marcher.
Ceci explique cela pour notre poisson.
Elle était pas là.
C'est Pascal Fournier qui dit ces histoires de Robert puis Gilles. Comprends-tu? Robert puis Gilles, ils aiment ça prendre un petit verre, Robert puis Gilles. Mais tu sais, ils n'ont pas une scène, Robert puis Gilles. Ils ont de la misère. Puis là, il y avait juste 50 scènes. Là, Robert, il dit, hey, moi, j'ai une idée. Fait que là, Gilles, il fait, ben, m'en va te suivre. Robert s'en va chez le boucher, il achète une grosse saucisse. Là, Gilles, il dit, ben, t'es-tu fou? On avait juste 50 scènes, t'as dépensé ça pour une grosse saucisse. Il dit, non. Attends, écoute-moi, suis-moi. On s'en va voir. Les deux s'en vont au pub, OK? Ils commencent, ils prennent un grand verre de whisky irlandais. Là, Gilles, il dit, ben, on n'a plus d'argent. Robert, il dit, non, fais-toi ça pas. J'ai un plat. Fait qu'ils boivent leur whisky. Puis là, Robert, il dit, OK, là, je vais placer la saucisse à travers ma fermeture éclair. Toi, tu vas te mettre à genoux puis tu la mets dans ta bouche. Là, Gilles dit, OK, maman, te faire confiance là-dessus. Fait que Gilles, il se met à genoux, ma saucisse dans sa bouche. Propriétaire, il voit, il fait, hey, pas d'affaire ici dans ma. Sortez, ma gang de. Fait que là, ils s'en vont, tu sais.
Bien joué.
Fait que là, ils font, hey, ça a marché. Ils continuent, ils te font ça. Ils saoulent gratuitement dans 10 bars. Son chaud raide. Là, un moment donné, Gilles, il dit, hey, Robert, je peux plus continuer. Moi, je suis chaud, j'ai mal aux genoux. Là, Robert, il répond, moi, si je me sens mal, surtout que j'ai perdu la saucisse au 4e bar.
C'est le temps d'une petite ville.
Non, il y a Francis Arpin avant qui nous propose une joke. C'était un papa qui demande à son petit gars qui vient de l'école. Puis, mon petit bonhomme, comment s'est passée ta journée? Aïe, papa, ça a été écœurant. Hein? Le professeur a posé une question et je suis le seul de la classe qui a donné la réponse. Wow, yeah. Et ça, c'est mon gars. Je savais que t'étais de même. C'était quoi la question? Le professeur, il a demandé, c'est qui a pété?
Ah ben oui, j'aime ça.
C'est une joke un peu enfantine.
Oui,
je l'aime. Tout ce qu'on aime. Je termine avec Lysiane. Elle dit, elle nous demande, c'est quoi la différence entre le papier de toilette et un rideau de douche?
Je sais pas.
Ben, viens pas faire caca chez nous. Viens pas chez nous,
merci beaucoup.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'estquoi.com.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.